Chers amis, j'ai le plaisir de partager avec vous aujourd'hui la présence de Anne Brassier.
Bonjour, Aude.
Bonjour.
Bonjour, chers auditeurs.
Et Anne Brassier, on ne la présente pas, tout le monde la connaît. Et puis Pierre Delacoste,
Bonjour.
qui n'est pas venu depuis longtemps, je crois.
Oui, absolument.
Et nous l'avons aujourd'hui parmi nous à cause d'un livre qui vient de paraître. Et c'est la même chose d'ailleurs pour Anne
Oui.
Brassier. Et alors, il se trouve que le sujet, vous verrez, permet d'associer les deux curieusement. D'abord parce qu'il y a un sujet qui est passionnant que vous abordez, Pierre Delacoste, c'est évidemment l'IA. On y pense tous les jours parce qu'on commence à l'utiliser tous les jours aussi. On l'utilise, parfois elle nous rend de grands services et elle nous étonne. La guerre se fait maintenant avec des ressources venant de ce côté-là. Enfin, bref, ça modifie notre quotidien, notre vie intellectuelle, notre vie artistique, absolument tout le temps. Donc, ce sujet est bienvenu, n'est-ce pas, quand on pense à l'art et à l'écriture. Et d'ailleurs, Pierre Delacoste, vous êtes écrivain. Je dirais même plus que ça, vous êtes poète. Et puis, par ailleurs, journaliste, évidemment, tout le monde connaît votre parcours. Et quant à Anne, elle est auteure, puisqu'elle nous a
Biographe.
biographe. Mais pourquoi? Donc,
C'est
enfin, en
plus
tout cas, une femme
modeste.
de plume, il n'y a pas de
C'est
problème.
plus
Et
modeste.
elle nous a enchantés avec deux biographies, dont La Varande et Brasiliaque, évidemment.
Brasiliaque.
Et aussi
Un
d'autres livres, bien d'autres
petit
livres.
pamphlet.
Et bien d'autres livres.
Cessez de nous libérer.
Voilà, c'est ça. Ça aussi, on en a entendu parler. Et on en avait bien besoin à ce moment-là. Et Anne, là, vous nous apportez un livre qui va être une sorte de. Comment dire? De réponse. Ce n'est pas une réponse, non, ce n'est pas ça. C'est qu'au fond, on va parler de l'intelligence artificielle. Et on va la mettre, on va parler de tout le problème que pose formidablement l'intelligence artificielle, et également de cette intelligence qui est celle du cœur et de la conscience, qui lui fait face tous les jours. Or, Anne, vous avez écrit un livre qui est une lettre à vos petites filles.
Mes quatre petites filles.
Aux quatre petites filles. Et une lettre aux quatre petites filles, la lettre d'une grand-mère, donc,
Oui.
elle fait tout ce que l'IA ne peut pas faire. Donc, dans la deuxième moitié de notre émission, Anne va nous parler de tout ce que l'IA ne peut pas faire. Bon. D'ailleurs, Pierre Lacoste, vous savez très bien ce que l'IA ne peut pas faire. Vous le dites partout dans votre livre, hein, vous avez une conscience parfaite que l'IA est une machine et qu'elle ne peut pas faire ce que les hommes font, pas tout. L'IA donc n'a pas la notion du temps, comme l'homme, qui grandit, vieillit, évolue et se souvient. Et nous aurons donc les
Et l'IA
souvenirs.
ne peut pas être une grand-mère, ça c'est clair.
L'IA ne peut pas être une grand-mère, elle ne peut pas écrire une lettre à ses petites filles. L'IA n'a pas non plus la notion de l'espace. Elle est nulle part et partout à la fois. Elle n'a aucune notion du lieu où elle est. Elle connaît toutes les cartes sans les situer elle-même. Elle ignore donc la vitesse et la lenteur. Par exemple, dans le domaine de la pensée est un processus très long, curieusement. Et donc, elle va si vite que c'est évident qu'elle ne pense pas. Elle oblige donc l'homme à la suivre partout à la fois. Elle est dotée du don d'ubiquité et pas nous, sauf si on est saint, bien sûr. Saint, on se privilège. Donc, Pierre, vous êtes parfaitement conscient de tout ce que l'IA ne peut pas faire. Et dans votre livre, pourtant, vous dites, nous faisons face à un danger qu'on n'a jamais connu, qui est un danger absolu, essentiel. Et vous nous décrivez, donc c'est très important pour le lecteur, c'est-à-dire que quand vous lirez le livre de Pierre Delacoste, vous aurez toutes les raisons pour lesquelles le danger de l'IA est extrême et qu'il peut être fatal pour l'humanité. Donc c'est une position, c'est la vôtre et vous la défendez très bien tout le long en regardant tous les aspects. Et d'ailleurs, on va rentrer un peu dans tout ça et surtout, votre conclusion est passionnante parce que vous soulignez et vous montrez quelle est la nouvelle idéologie qui est reprise, je dirais, par ceux qui défendent absolument l'IA. Donc, nous avons là un livre qui est totalement cohérent dans sa démonstration. Alors, nous rions tout à l'heure en disant que vous étiez extrêmement contre. Anne vous disait qu'elle l'était aussi. Et je sais que Christine Sourgens, qui fera la chronique tout à l'heure, l'est absolument, de façon absolue également. Et moi, je suis moins. Donc, vous voyez... Autour de la table.
C'est curieux parce que...
Comme ma femme.
C'est curieux parce que en tant que peintre, j'ai vu l'illustration d'une vie de Jésus par un grand historien. Je ne sais plus comment il s'appelle, mais bon, on lui a demandé... Il a fait un gros livre. On lui demande de leur en faire un plus petit illustré. Et l'éditeur a utilisé l'IA pour illustrer ça. Et
bien
ça
entendu,
a été catastrophique.
Bien entendu.
C'était du sous-Michel-Ange, du sous-tous les Italiens.
Alors,
qui ont peint Christ.
Ben voilà la bonne raison pour laquelle ça ne m'affole pas. Oui. C'est que tout le monde s'en...
Bon, vous me rassurez.
Moi, ça m'affole. Parce que, si je puis me permettre, moi, je suis tout simplement, je ne suis pas un scientifique, je ne suis pas un philosophe, je suis tout simplement un écrivain français. Et mon point de départ, c'est intelligence artificielle. Cet oxymore. Oui. Cette contradiction dans les termes, c'est tout de même étrange.
Elle a conquis
le monde, l'IA générative, c'est-à-dire l'IA populaire, elle a conquis le monde en quelques années seulement.
Parce qu'elle rend de grands services.
Alors, c'est possible, mais en tout cas, c'est étonnant que dans le monde européen, dans le monde américain d'où elle vient, et également malheureusement dans le monde chinois, la Chine communiste, l'IA a strictement envahi le monde. Et c'est quand même très ennuyeux.
Alors, vous le soulignez.
Oui.
Vous dites que... Elle a envahi le monde, mais pas de la même façon.
Bien sûr.
Les Chinois prennent certaines choses et la pratiquent d'une certaine façon, les Américains aussi, et nous, les Européens, autrement. Donc, c'est une machine.
Exactement.
Et on la pratique différemment.
Ou pas, absolument.
Mais c'est une machine qui fait semblant de croire qu'elle n'est pas une machine. Mais
elle ne fait pas semblant, parce que vous avez dit qu'elle n'a pas conscience du bien et du mal.
Oui.
Parler de son immatérialité,
prétend...
de son manque d'imagination.
Ceux qui l'utilisent font semblant de croire que...
C'est semblant d'en avoir de l'intelligence, de la vraie intelligence. Or, c'était, comme vous le dites exactement, c'est une énorme masse de 0 et de 1 qui ne fait pas la différence entre le vrai et le faux, le bien et le mal... L'homme et la femme.
Et le bon et le mauvais.
Le bon et le mauvais, bien sûr.
Très juste.
Comme l'a rappelé une chose extraordinaire, c'est-à-dire l'encyclique du pape
contre
l'IA.
Oui, oui.
Ce qu'il dit, le pape.
Léon XIV.
Léon XIV, j'oublie toujours. Je rappelle Louis XIV, Léon XIV. C'est mon. Léon XIV a écrit une encyclique extraordinaire, dont la première partie est consacrée à la doctrine sociale de l'Église. Rappelez, et comme application à d'abord une condamnation de l'IA, qui est une condamnation totale, et aboutit à une condamnation évidemment encore pire de ce que je fais dans mon livre aussi, condamnation du transhumanisme et du post-humanisme.
Oui, mais alors ça, c'est l'idéologie. Alors ça, on en parlera tout à l'heure, parce que c'est fondamental, dans la mesure où aujourd'hui, il faut apprendre tout le vocabulaire de l'IA, ces différents types de... ces différents usages, il faut vraiment avoir une culture dans ce domaine, sinon on ne survivra pas.
Oui.
Mais aussi, et ça vous le soulignez à la fin, et c'est très important, l'IA est récupérée par des idéologies très particulières dont nous parlerons tout à l'heure. Mais on va peut-être laisser ça comme conclusion, parce que je pense que quand on a pris conscience de l'idéologie, on y voit beaucoup plus clair. Mais pas facile, parce que tout est mélangé. Et si vous remarquez, tout le monde ne parle que de ça tout le temps. Dans tous les domaines, comment on fait avec ça? Et tout le monde essaye de se cultiver. Vous avez fait une bibliographie fort intéressante dans votre livre pour dire quels sont les livres. Ceux qui vous diront comment faire, comment pratiquer l'IA, comment regarder l'esprit critique, comment l'utiliser, etc. Un mode d'emploi absolument indispensable. Donc tout ça, quand même, vous vous apercevez qu'il n'y a pas de jour où il n'y ait pas des articles, où il n'y ait pas des rencontres, des colloques. Moi, j'étais invitée déjà à plusieurs colloques sur ce sujet. En Occident, tout le monde réfléchit là-dessus.
Absolument.
On ne peut pas dire que l'homme ne réagit pas voilà, et vite.
Ça, c'est clair.
Et vite.
C'est clair. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que mon livre, il faudrait l'actualiser chaque mois. Bon, c'est pour ça que j'ai donc associé au livre un blog qui s'appelle sansia.net, dans lequel, par exemple, j'ai parlé de l'encyclique, la fameuse encyclique, et d'autres choses encore. Il y a déjà des choses supplémentaires, des débats à propos de cette encyclique.
Absolument.
Et ça, c'est extrêmement intéressant. Alors, un petit détail à propos de l'encyclique. Le jour même où le pape a présenté devant un certain nombre de personnalités son encyclique, à la seconde même, le site vatican.va a publié l'encyclique dans toutes les langues du monde, à commencer par le latin, évidemment, en anglais, en français, en tout ce que vous voulez. Et donc, l'Église catholique est la seule à pouvoir rivaliser avec l'IA, qui, comme vous savez, tout est traduit instantanément par l'IA. On dit que c'est très bien traduit, mais je ne suis pas d'accord.
Non.
Donc, la seule... Alors, certains l'ont dit, et non des moindres, enfin bon. Mais certains l'ont dit, moi je ne le pense absolument pas. Quand vous traduisez du français en anglais, puis l'anglais en question en allemand, puis en allemand en japonais, puis en japonais en chinois, puis de chinois en français, vous revenez, ben vous avez un autre texte.
Pierre, vous avez parfaitement raison, c'est du boulgli, boulga. Je suis très adepte de petites vidéos. Les traductions sont toutes faites par l'IA. C'est à sauter en l'air tellement c'est effrayant. Enfin, je suis ancien professeur de français.
Vous en apercevez.
Pas de grammaire, des mots pour un autre. Il hocha la tête. Alors, O-A-U-C-H-A-T.
Ah
bah
oui. Oui, oui.
Enfin, c'était assez rigolo quand même.
C'est
quand même très ennuyeux.
Il y en a des plus ou moins bonnes. Mais ce qui est encore pire, c'est quand on ne sait pas, on est devant une vidéo de YouTube par exemple, on ne sait pas que la personne qui parle, on a traduit quelque chose de l'anglais au français, et on ne sait pas que c'est une IA qui parle. Et donc, alors il y a des petits détails, moi j'arrive à les... Mais parfois c'est très bien fait, malheureusement, si vous voulez. Parce que l'IA est un pastiche parfait de l'intelligence humaine. Presque parfait, on va dire. L'IA est sophiste. Vous savez que les sophistes de l'Antiquité grecque, ils savaient, prétendaient, que dans un procès, ils étaient capables de défendre aussi bien une partie que la partie adverse.
Bien sûr, c'était
parce que
grand exercice.
Leur intelligence était tellement subtile qu'ils y arrivaient.
Bon. C'était l'exercice obligatoire.
Voilà. Mais l'IA est une sorte de sophiste presque parfait. Oui. Mais heureusement, elle n'est pas parfaite.
Heureusement, bien sûr. C'est comme ça qu'on reconnaît. Mais aussi, ce que nous faisons parfois est loin d'être parfait.
Mais nous sommes des êtres humains, que rien n'est parfait.
Donc la machine n'est pas parfaite, nous non plus, mais si on peut reconnaître
parce qu'elle fait semblant de l'être.
Oui, mais quand même, on reconnaît quand même.
Est-ce que vous abordez tout le côté économique? Moi, ce qui m'effare, c'est le nombre de gens laissés sur le carreau.
Bien entendu.
Parce que je suis à l'heure de la grande retraite, que je ne prends pas, mais pour les autres... Qu'est-ce qu'ils vont faire?
Vous avez tout à fait raison. L'IA, on parle de destruction créatrice à la Schumpeter, où il y aura des emplois détruits, des emplois créés. C'est faux. Il y aura très peu d'emplois créés et énormément d'emplois détruits.
Bien sûr.
Il y a des métiers étonnants, comme avocat, comme juriste, comme ouvrier, comme vendeur de supermarché, ils sont remplacés par IA, etc. Et donc, médecins, infirmières, etc. Avec les conséquences désastreuses.
Soignés par
en fait,
l'IA.
Il y aura peu d'emplois créés et beaucoup d'emplois détruits.
Oui. Mais mon cher Pierre, vous devriez raconter que vous avez été sauvé par l'IA quand même.
Exactement.
Alors, racontez-nous.
C'était la question que je ne voulais pas que vous me posiez.
Ça, c'est le coup dur. Racontez, Pierre.
Eh bien, j'ai été sauvé par l'IA, une manière de présenter les choses, mais disons... Je le dis, donc je vais le répéter. J'ai été sauvé par l'IA et je le regrette. Alors, vous allez bien...
Alors, ça, c'est insultant pour le bon Dieu.
Alors, voilà.
Franchement, moi, je ne serais pas...
Je pense que je n'ai pas le droit de me suicider, mais j'ai le droit de dire que je regrette d'avoir été sauvé de l'accident vasculaire cérébral qui m'a transformé en poisson rouge. Et le poisson rouge est toujours... On a tous un poisson rouge, il y a des millions d'années dans la tête. Et moi, il y a quelques années seulement. Et il y a eu une destruction, après mon AVC, une destruction, mais réelle, de mon intelligence immédiate.
Oui, mais c'est-à-dire que vous en reste beaucoup quand même, Pierre.
C'est pas certain. Alors, d'abord, vous m'auriez vu quelques mois ou quelques années après, après mon AVC, vous n'auriez pas dit ça. Mais ma mémoire ancienne reste parfaitement intacte, ma mémoire future aussi, et ma mémoire immédiate, elle, a été transformée en poisson.
C'est comme beaucoup de vieilles dames que nous allons être.
Et vieux messieurs.
Je suis un vieux monsieur par ailleurs. Mais...
Oui. Mais je pense que là, le truc du poisson rouge...
Mais Pierre, on est au tout début. On ne sait pas que les neurones se recréent par des massages au bas de la nuque. J'ai vécu avec un père qui a eu un AVC. En 10 ans de temps, il a récupéré moult neurones et il a pu reprendre des conversations qu'il avait avant son AVC.
Oui, alors,
ça, il faut que vous tabliez sur cet avenir.
Une chose d'abord, je voudrais citer saint Augustin, si vous permettez.
Saint-Augustin
dit, il n'y a pas le présent, le passé et l'avenir. Il y a le présent du passé, le présent du présent et le présent de l'avenir.
C'est joli, bon, oui.
C'est très, très joli, c'est dans les confessions. Eh bien, moi, j'ai été privé du présent du présent, que les médecins aujourd'hui appellent la mémoire immédiate.
Immédiate, c'est ça. Oui.
Alors, le problème, vous me dites, oui, on arrive toujours. Alors, c'est vrai que quand la neurologue pure, parce qu'on a, vous savez qu'avant 1968, il y avait des neuropsychiatres qui s'occupaient des neurotuyaux et de ce qui coule dans les tuyaux, si j'ose dire. Or, on a coupé en deux, d'un côté les neurologues, d'un côté les psychiatres. Oui. Et les neurologues m'ont sauvé dans un très bel hôpital parisien, catholique, l'hôpital Saint-Joseph. On a sauvé les neurones tuyaux. Et on m'a dit, allez voir les psychiatres. Mais non, il faut être neuropsychiatre.
Voilà des métiers d'avenir.
Oh oui, alors ça, bien entendu.
Voilà,
bien
ça
entendu,
y est,
bien
quoi
entendu.
C'est...
Mais bon. Alors, la dernière fois que j'ai vu cette neurologue, charmante d'ailleurs, elle m'a dit, vous avez, au début, le cerveau se répare relativement vite. Et c'est vrai que je suis passé de poisson rouge à...
Un requin des hautes mers.
Un requin des hautes mers, effectivement, son cousin germain, d'ailleurs, simplement. Et puis finalement, je m'améliore encore un petit peu. Mais.
Toujours.
Et malgré tout, les neurologues ont sauvé les tuyaux. Et donc, quand elle m'a dit ça, elle m'a dit maintenant, vous ne remonterez plus tellement. Au bout de 2 ou 3 ans, ça y est, 3 ou 4 ans.
Alors, ça, c'est faux.
La neurologue.
C'est faux.
Et. Après avoir écouté la neuropsychologue, qui est la petite main en quelque sorte. Et donc, je suis sorti de l'hôpital, je n'ai pas pris le métro, parce que j'avais trop peur de me suicider. J'ai erré dans Paris, je me baladais, et pendant une semaine, j'avais envie de me suicider 3 fois par jour. Et au bout d'un certain temps, cette souffrance, j'ai payé à débloquer un certain nombre de neurones, si j'ose dire, dans mon esprit. Et ma mémoire s'est améliorée.
De l'utilité de la souffrance.
Bien entendu.
Tout ce qui ne me tue pas
me rend plus
fort. Tout ce qui s'est cassé
dans ma vie professionnelle s'est écroulé. Ma vie familiale s'est écroulée, etc. Mes amis que j'avais avant ne sont plus mes amis, etc. Tous mes amis sont de nouveaux amis. Alors, sauf vous. Ah. Pardon. J'espère que je... mais c'est bon. Mais mes amis, j'espère que vous, que je connaissais avant, vous restez mes amis. Mais mes amis proches, tout s'est écroulé.
Oui, je connais ça, oui.
Ouais. Donc, c'est absolument sidérant. Donc, c'est pour ça. Alors, j'ajouterai encore une chose. Il faut, puisqu'on parle de médecine, c'est pas tellement intelligence artificielle, mais il faut que les neurologues redeviennent des neuropsychiatres. Deux, il faut que les neuropsychologues soient remboursés par la Sécurité sociale. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. C'est eux qui m'ont sauvé mes neurones. Et troisièmement, il faut encore aller plus loin. Et là, je rappellerai, c'est tout à fait loin de notre sujet, mais je rappellerai mon professeur de philosophie en terminale, M. Eugène de Tappe, à Sainte-Croix-de-Neuilly, qui nous disait « J'aurais beaucoup de mal à être chrétien s'il n'y avait pas dans le credo de l'Église catholique la notion de résurrection de la chair. » C'est-à-dire que ce n'est pas, le christianisme n'est pas un platonisme pur, avec la chair qui s'effondre et l'âme qui s'en va dans le ciel des idées. Non, on croit au corps glorieux. On croit que nous allons soit au paradis, soit en enfer, soit entre les deux, mais avec le corps et l'âme intrinsèquement liés. Et donc, dans ce cher hôpital Saint-Joseph, qui est chrétien encore un petit peu, eh bien, on a mis d'un côté, on s'est occupé des neurones physiques. Et de l'autre côté, on me disait, allez voir ce qu'il y a dans les neurones chez les psychiatres. Non, il faut tout reconstruire vers peut-être une neuropsychiatrie chrétienne.
Eh bien, je vois que ce livre va servir à ça, un de ces quatre.
Bon, c'est un aspect du livre.
Oui, je pense. Mais je vais vous poser une question. Cette histoire de la machine qui remplace l'homme, c'est une vieille histoire. Bon, je crois que la première fois où ça devient vraiment très, très visible, c'est le golem 18e siècle à Prague. Ce monstre d'argile qui a tous les pouvoirs au-delà de l'homme. Et puis, vous avez Faust, évidemment. Vous avez tout. L'apprenti sorcier. Vous avez, je crois que dans les contes et légendes, il y a toujours ce thème.
L'apprenti sorcier qu'on retrouve chez Walt Disney.
Oui,
à l'époque où Walt Disney était très drôle.
Qui a plongé dans toutes ces choses-là. Donc, c'est une vieille histoire.
Et puis des temps modernes de Charlie Chaplin.
Bien sûr.
C'est donc quelque chose qui...
Tout a été dit sur l'IA.
Et tout a été dit sur l'excès du mal.
Oui.
Et sur cette folie de l'homme qui se prend pour Dieu.
Bien sûr.
Sauf que là, on est un peu... disons qu'on va peut-être aller... Dès à présent, parce que vous faites évidemment une description dans tous les domaines de la santé, de l'art, de l'économie, des bouleversements colossaux dans la guerre aussi, de cette IA qui, bouleverse les méthodes, les stratégies, enfin, tout est à revoir. Mais au fond, moi, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est votre développement sur ces deux nouvelles chose qu'on voit apparaître de façon très forte, qui est le transhumanisme et le post-humanisme.
Voilà, post-humanisme.
Alors, ça, c'est quelque chose qui apparaît, disons, vers la fin des années 90. Vous le décrivez bien, et c'est pas évident d'ailleurs, c'est pour ça que ça vaut la peine peut-être qu'on en discute.
Il y a une distinction entre les deux.
Et la distinction entre les deux, et en fait... Je pense que c'est très important pour nous de relier ça à nos idéologies totalitaires, en grande partie totalitaires, que nous avions avant. Et même avant, je dirais, pas forcément totalitaires.
On peut dire simplement que le transhumanisme, c'est Luc Ferry, qui est un transhumaniste gentil, qui l'a dit, qui l'a avoué.
Oui, qui est tout à fait pour.
Qui est transhumaniste, mais seulement... Et il dit, je ne suis pas post-humaniste. Autrement dit, il veut qu'on vive 150 ans, remboursé par la sécurité sociale, et donc c'est un transhumaniste gentil.
Oui.
Le post-humanisme, c'est Laurent Alexandre. Laurent Alexandre, il suffit de citer un titre d'un de ses livres.
Oui.
ChatGPT vous rendra immortel.
Oui. Là, c'est...
Ce qui est non seulement une gigantesque connerie,
on est dans le délire,
mais
là.
Criminelle. Une connerie, une sorte de connerie criminelle, si on peut dire. Laurent Alexandre, pourtant, qui est médecin, qui est énarque, qui est ceci, qui est cela, qui est bon.
Mais
les livres sont de pire en pire, d'ailleurs. C'est un post-humaniste. Et il va vers... c'est un eugéniste, en fait. Vous savez, Laurent Alexandre...
L'eugénisme, il existe aux États-Unis déjà. Depuis
et chez nous, c'est
le 19e siècle.
Oui, bien sûr. Et dans le nazisme aussi, il y avait ça, etc.
Et nous, ça va nous arriver la semaine prochaine.
Dans des pays démocratiques, il y a eu un moment, il y a eu de l'eugénisme. Mais enfin, malgré tout, les moyens techniques n'étaient pas encore ce qu'ils sont aujourd'hui. Mais je vais vous raconter ma première rencontre avec Laurent Alexandre. C'était dans un endroit qui s'appelle le Cube Art 3000, sympathique, qui était à Issy-les-Moulineaux à l'époque. Et on avait invité Laurent Alexandre à faire une conférence. Il arrive droit vers moi, il ne me connaissait pas, il me tutoie, bon, très bien. Et il me dit, est-ce que tu sais combien il y a d'enfants trisomiques qui naissent chaque année en France?
Oui, ça y est.
La réponse est, J'ai dit non, je ne sais pas. La réponse, il n'y a aucun. Parce qu'ils sont tous avortés avant l'heure. Avant
c'est ça,
l'heure. Et il ne dit pas, il faut avorter les enfants trisomiques.
Non,
il dit, les faits sont les faits, qu'on le veuille ou pas, on va faire de l'eugénisme.
Oui, oui.
Parce que demain, on va avorter ou ne pas avoir tout simplement des enfants s'ils ne sont pas blonds aux yeux bleus, de 2m10 de haut, etc. Bon, c'est qu'il y a trouvé déjà dans le nazisme, il y avait des fermes.
Et beaucoup,
où les femmes...
beaucoup aux États-Unis.
Aux États-Unis, oui.
D'une manière générale.
Bonne égalité, là.
En France, en Europe, on est obligé quand même de freiner un peu. Il y a beaucoup de freins en Europe, malgré tout. Mmh. Alors qu'aux États-Unis, il y a le meilleur et le pire. Le meilleur, c'est le pire, c'est Trump, et le meilleur, c'est le pape Léon.
Ne lui donnez pas une nationalité. Il est français, espagnol, italien.
Il a le Vatican maintenant. Oui, alors, mais il est quand même très américain. Il faut pas oublier. Donc, c'est curieux quand même que le contre cette qui est très vraiment néfaste aux États-Unis. Alors, heureusement, aux États-Unis, vous avez les IA, sont terribles, mais elles se concurrentes entre elles.
Voilà,
elles
c'est ça qui est très important. Et c'est ça la différence. Alors, ça, il faut revenir à ça. Les stratégies de l'Amérique, le soft power a été, comment dire, rayé de la carte, mais il a été remplacé par l'arme de l'IA. Pourquoi ? Là-dedans, il court un risque, c'est-à-dire qu'ils mettent l'IA en open source, avec même pour les codes, c'est-à-dire qu'ils vont loin dans l'open source. Il n'y a jamais d'open source. Attendez une seconde. Il
n'y
a jamais
d'open source.
C'est-à-dire que tout le monde peut avoir accès.
Ah oui.
Bon. Okay. Alors, l'open source, il est, disons, à 80% et on garde les 20% qui peuvent être militaires, stratégiques ou autres. Mais c'est possible dans c'est l'idée démocratique d'une certaine façon, et c'est possible dans un pays où il n'y a pas de fermeture des frontières.
Mm-hmm.
Les Chinois et les Russes, eux, ferment les frontières, ils ont intranet. Et ils ne peuvent pas être dans cette ouverture de la, ce que vous dites très bien, de la concurrence.
Il faut
cette ouverture de la concurrence, elle permet, et c'est ça le nouveau soft power américain, de ramasser toutes les données de tous ceux qui profitent, nous en profitons tous les jours, de l'IA, qui, évidemment, donnent leurs données à ceux qui donnent ce service de l'IA. Et donc, c'est par ce biais-là qu'ils pensent, disons, prendre le meilleur de la science, de l'entrepreneuriat, de la création dans le monde.
Tout à fait.
Donc ça, c'est important, faire cette distinction de l'usage de l'IA.
Alors, il y a un usage différent, quand même, entre l'Europe, les États-Unis, où les IA sont, et les entreprises sont concurrentes terriblement entre elles, tant mieux, les requins se mangent entre eux. Et puis, malheureusement, la Chine, où là, il ne faut pas oublier que la Chine est toujours un pays communiste, avec un parti communiste, un parti unique, et un intranet fermé avec des passerelles, mais pour aller envahir ailleurs, parce que quand même, les IA chinoises viennent attaquer quand même le marché européen, par exemple, et américain, et mondial, en fait. Mais pour les Chinois eux-mêmes, l'exemple flagrant, c'est TikTok, qui a une version pour le monde et une autre version pour la Chine.
Oui.
En Chine, c'est un intranet dans le monde, et qui a pour but, dans le monde, de pourrir
les
tout ce qui est autre que la Chine.
Oui. Une protection de son propre peuple.
À partir du moment où on est attaqué, on se défend, etc.
Oui, voilà, c'est ça.
C'est la nouvelle guerre. Mais revenons à donc transhumanisme, qui est disons le fait qu'on en est d'accord pour une humanité augmentée, c'est-à-dire que si vous pouvez plus marcher, on va vous mettre quelque chose qui va vous permettre de marcher, que si vous pouvez plus voir, on va vous mettre des yeux qui vont vous permettre de voir, des oreilles qui vont permettre d'entendre. Enfin, il y a tout cet aspect de l'humanité augmentée. C'est pour ça que vous dites, c'est tout à fait innocent chez Luc Ferry, et que ce transhumanisme, il a déjà une longue histoire avec Alexis Carrel, avec Pierre Teilhard de Chardin. Enfin bref, vous, vous, Vous parlez des ancêtres et vous dites que c'est quelque chose qui est né en France.
Oui.
Selon un Jean Courtot dont je n'avais jamais entendu parler.
Ça ne veut pas dire que ça soit bon pour autant, mais
il y a des racines. L'idée d'un progrès et d'avoir une jambe qui marche quand vous n'avez plus de jambe, franchement, si ça m'arrive, je suis pour ça à 100%.
J'aime beaucoup Teilhard de Chardin et je refuse de penser qu'il est transhumaniste. Il ne l'est pas. Pour moi.
Disons qu'ils sont optimistes du progrès.
Voilà. Ça peut l'être. Mais le pape actuel l'est aussi.
En fait, il y a un accommodement dans le transhumanisme entre la machine et l'humanisme. Mmh. Et là, on est encore dans cet humanisme du XVIIIe siècle et chrétien derrière. S'il n'y avait pas le christianisme derrière, il n'y aurait pas eu l'humanisme du XVIIIe siècle. Et que quand on passe au post-humanisme, là, il y a une rupture avec l'humanisme, que ce soit chrétien comme celui du XVIIIe siècle. C'est assez frappant et vous le montrez bien. Ça.
Alors, je te dirais simplement que je suis totalement hostile au transhumanisme, même celui de Luc Ferry, tout gentil qu'il soit. Pourquoi ? Parce que quand par exemple on crée un squelette externe pour apprendre à quelqu'un à marcher, eh bien on dit c'est de l'intelligence artificielle. Je refuse ça. Je dis que c'est de la mémoire informatique augmentée, mais qui n'existe que dans son rapport, son rapport avec la matière, le squelette externe métallique lui-même, avec toute une série de la notion incarnée de droite, de gauche, c'est pas politique, de droite et de gauche, de haut et de bas, etc. Et tout ça, c'est pas de l'intelligence artificielle, c'est de la globalement un ensemble qu'on peut avec un élément très important qu'on peut appeler la mémoire donc augmentée, la mémoire informatique augmentée, qui n'est pas qui, alors là qui pour le coup c'est la langue d'Ésope, c'est-à-dire ça peut être bon, ça peut être mauvais. Et d'ailleurs quand on parle de la défense, en gros on va toujours dire la même chose, comme pour les arbalètes et les canons, etc. Si c'est moi qui le fais, c'est bon. Et si c'est l'adversaire, c'est mauvais. Donc, vous voyez, tout est bon ou mauvais.
Le progrès, dans le cas de l'arbalète et du canon, est tout à fait pathétique. Dans un cas, on tue un homme et maintenant, on en tue des millions. Alors, le progrès d'Aude, c'est quand même relatif, excuse-moi, mais je ne parle pas de la bombe atomique qui élimine tout un continent. Donc,
C'est la fameuse langue d'Ésope. C'est la meilleure et la pire des choses.
Oui, mais on a toujours eu, depuis la nuit des temps, la pire des choses.
Oui, mais c'est pour ça qu'il faut être très, très, très méfiant. C'est ça.
D'un point de vue IA, l'IA que je condamne absolument et que vous condamnez, en fait, toutes les deux, et l'utilisation dans un squelette artificiel, c'est la même chose. C'est-à-dire c'est une masse énorme de 0 et de 1. Mais c'est là où le problème, c'est qu'il ne faut pas voir l'IA d'un point de vue technique, c'est-à-dire du point de vue de l'IA elle-même, mais du point de vue humain. C'est-à-dire, quel est le but, quelle est la fonctionnalité ?
Comme toute chose. Comme toute chose. Et d'ailleurs, quand vous parlez des post-humanistes, vous rendez compte qu'il y a presque une idéologie organisée dans tout ça. Que cette idéologie, elle n'est pas nouvelle. C'est la suite du matérialisme historique qui, avant, avait ce déterminisme historique, la fin de l'histoire, etc., la lutte des classes qui mène à la fin de l'histoire. Là, ce n'est pas la lutte des classes qui nous mène à la fin de l'histoire, c'est le même matérialisme qui nous mène à la fin de l'histoire par la technologie.
Oui,
c'est la technologie qui a remplacé la lutte des classes.
Comme l'a dit le pape, l'intelligence artificielle est bien... c'est un peu moi qui brode. L'intelligence artificielle est bien inférieure à l'intelligence humaine, mais elle est même inférieure à l'intelligence du diable. Le diable, lui, il a la notion du bien et du mal. Puisqu'il sait que Jésus, c'est le bien, que lui est le mal.
C'est sûr,
donc, l'IA ne sait pas la différence entre lui et le mal.
Donc, ça, c'est une chance pour nous, parce que si lui ne le sait pas, et que nous le savons, il y a quand même déjà cette asymétrie qui permet la guerre.
Bien entendu. Mais l'intelligence artificielle est même inférieure à l'intelligence animale. Le chien, par exemple, très intelligent, bien entendu, surtout le labrador, il a une notion du danger, il a une notion de l'amitié, il a de la fidélité, etc. Voilà. Mais on peut même dire que l'intelligence artificielle est inférieure à l'intelligence végétale. Le végétal, il connaît la vie et la mort. S'il n'a pas d'eau, il y a une sécheresse, il meurt. Donc la notion de vie et de mort existe. Il se reproduit plus facilement à tel endroit, etc. Les racines vont dans tel... Donc l'intelligence artificielle, c'est juste de la matière. C'est juste au-dessus, un tout petit peu au-dessus, une apparence, juste au-dessus des neurones, des, non pas des neurones, mais des atomes. C'est un tout petit, à peine plus que les atomes, une masse d'atomes. Qui, encore une fois, ces atomes n'ont pas la notion du bien et du mal, du vrai et du faux, de la différence des sexes, etc.
Mais Aude a lancé un mot très important, le matérialisme. Est-ce que cette IA n'est pas une entreprise commerciale extrêmement utile pour faire gagner beaucoup d'argent à certains? C'est ça qui me fait douter. C'est ça qui me fait douter.
Oui, mais il y a toujours le but.
Le but commercial n'est pas.
Dans chaque geste humanité, il y a des buts qui diffèrent.
Oui,
ça peut être fait.
Le poids commercial, le poids financier, le but financier, comme toujours, est en train de bouffer tout l'espace.
Comme tout le monde a toujours envie d'avoir plus d'argent que possible, mais il faut bien faire attention que l'IA s'intègre à une idéologie qui est proprement protestante, où le fait de gagner de l'argent, ça signifie le paradis.
C'est un don
c'est
de Dieu.
C'est la prédestination, don de Dieu. Et c'est ce qu'on retrouve même de manière... complètement, parce que les vrais protestants, j'en connais, je veux dire, ils ne raisonnent pas comme ça, mais les États-Unis d'Amérique sont la patrie de ces... Alors, il y a des catholiques, évidemment, mais elle est fondamentalement WASP, White Anglo-Saxon Protestant, évidemment. Et donc, alors, l'IA, là, prend cet aspect-là.
Oui, mais, mais maintenant, dans le post-humanisme, c'est toute la critique de l'humanisme qui a lieu. Et qu'est-ce qu'elle va critiquer? Le fait que le pouvoir, c'est les hommes blancs de plus de 50 ans, dominants, qui dominent la nature et l'humanité. Mmh. Et c'est toute l'idéologie woke qui passe dans le transhumanisme.
Bien entendu.
Cela dit, à mon avis, c'est une stratégie pour certaines personnes pour se cacher. Cacher leur pouvoir. Oui. Mais bon, ça, c'est une
Très juste. Le patron de ChatGPT, le patron de OpenAI, Sam Altman. Alors, il est homosexuel, ce qui est son droit le plus strict.
Bien sûr.
Mais il est aussi végétarien, survivaliste. Il ne se déplace jamais sans une sacoche avec une ration de survie.
Je connais énormément de gens autour de moi, et en particulier de vieilles dames que nous sommes, qui ont dans leur sac leur parachute, l'aspirine, le passeport, le téléphone.
Vous ne l'avez pas, et vous non plus, vous ne l'avez pas. Donc, faut pas dire.
On est un peu atypique, il faut bien le dire.
Mais je ne crois pas que les vieilles dames sont comme ça.
Les vieilles dames ou les jeunes, on est. Comment dire? C'est dans le caractère. Ceux qui veulent tout avoir et tout prévoir.
Bon, mais c'est aussi mon cas, enfin, bon, etc. Mais Sam Altman, bon, c'est le patron des plus grosses réussites de l'IA, justement. Mais il est complètement fou. Il paraît qu'il ne va jamais aux toilettes. Je ne sais pas comment il fait quand il y a des réunions, etc. Ben, il n'a pas besoin des toilettes. Parce qu'il a tout prévu à l'avance.
Il y a des petits tuyaux et tout ça. Je vous expliquerai après.
Ah oui, allez-y, expliquez-le-moi.
Je crois que là, on ne va pas le faire. Il faut que nous écoutions.
Non, allez-y, je vous en prie.
On est après le repas. Je ne vais pas rentrer dans les détails.
Pierre, je crois qu'on va peut-être basculer du côté des grands-mères.
Bien sûr.
Parce qu'il faut qu'à 15h10, nous téléphonions à Christine et nous reprendrons après avec le temps qui nous restera. Alors, voilà, je pense que vraiment, c'était très important.
C'était passionnant, en tout cas, c'est passionnant.
C'était très, très important.
Je craignais le plaidoyer pour. Mais
de moi
Non, mais je ne... Voilà.
Effectivement, oui, il faut qu'on passe le bobino d'abord, voilà.
Vous avez fait le choix de nous rester fidèles. Vous avez fait le choix d'écouter Radio Courtoisie. Vous avez fait le choix de nous soutenir parce que vous êtes libre. Parce que pour vous, tout comme Radio Courtoisie, la liberté de penser, la liberté de parler, la liberté de chercher sont primordiales pour vous. Radio Courtoisie vous offre désormais le choix d'écouter nos podcasts partout et tout le temps sur les plateformes Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music et sur notre site internet rc.fr et podcast.rc.fr. Gratuitement, pour que toujours cette liberté qui nous unit, qui nous est chère, demeure.
Oui, alors, Anne Brassier, qu'est-ce qui vous a donné cette idée d'écrire une lettre à vos petites filles. Alors, quatre petites filles absolument magnifiques, que vous aimez follement et que vous sentez à des grands devoirs de grand-mère que Lia ne pourra jamais leur donner.
En fait, j'ai eu ce sentiment atroce d'un enterrement, un vieux monsieur que je connaissais qui était un homme richissime intellectuellement, spirituellement. Et il y avait plein de petits-enfants et je me suis mise à pleurer en me disant « Ces petits-enfants ne connaîtront pas leur grand-père. » Et puis j'ai réfléchi, je me suis dit « Mais toi, pauvre cloche, c'est la même chose. Elles arrivent, tu vas bientôt sortir de la carrière, ça va être ton cas. Que faire ? Eh bien, tu vas leur laisser une lettre, tu vas leur laisser des petites choses, des petits souvenirs. » Alors, d'abord, leur apprendre d'où elles viennent. En fait, c'est une découverte récente pour moi. J'avais quelques petites connaissances de qui étaient mes grands-parents, mais pas du tout avant. Le hasard a voulu que quelqu'un de l'ouest de la France me donne les quatre généalogies des quatre grands-parents. Ça a été pour moi un cadeau somptueux. Et donc, l'une d'entre elles est une bretonne. C'est pour ça que sur la couverture, il y a cette photo marrante d'une bretonne avec une coiffe de bigouden qui parle à un petit enfant et qui est une photo de ma propre petite pomme, puisque cette coiffe de bigouden m'a été donnée par mon père, qui savait bien lui aussi que ses ancêtres étaient bretons. Donc, il nous avait acheté des coiffes. Et comme je garde tout, j'ai cette coiffe de bigouden que je ressors de temps en temps. Et si vous voulez, je leur donne donc leur... Parce qu'elles me répétaient sans arrêt qu'elles étaient de Marseille. Parce que leur maman est marseillaise et pied-noir. Et elles me répètent, et elles savent que ça m'agace, nous sommes de Marseille. J'étais obligée de leur dire, non mais cocotte, vous avez aussi une ascendance normande et bretonne. Et puis, si vous voulez, je leur ai fait un petit chapelet de tous les merveilleux moments passés à la maison. Et quand vous écoutez les enfants, il y a toujours des répliques délicieuses. Et la première des répliques, c'est la plus jolie. C'est une petite fille, elle a 7-8 ans. Je l'emmène en Normandie, en voiture, nous sommes seuls. Et tout d'un coup, elle me dit « Mais Mia, où sont tes parents ?» Elle avait encore son arrière-grand-père. « Où sont tes parents ?» J'ai trouvé que c'était merveilleux qu'elle se préoccupe de savoir où sont mes parents. Je lui dis « Chérie, ils sont au ciel. Quand est-ce que je les verrai ?» Et quand tu seras morte à ton tour. « Bon, alors je veux mourir tout de suite. » C'était extraordinaire. C'est ce désir de connaître mes parents. Je l'emmène. Alors, je lui dis, mais on va aller les voir au cimetière. Ils sont au cimetière. On va au cimetière. Avant, nous passons dans la maison de mes parents. On cueille des camélias, elle pour sa mère, moi pour mes parents. Et je dépose ces camélias. Et je lui dis, tu sais, quand je serai très vieille, je dormirai là avec ma famille. Et elle m'a répondu, et je viendrai t'apporter un bouquet de fleurs. C'était le poème de Victor Hugo. Je viendrai t'apporter un bouquet de houverts et de bruyères en fleurs.
Demain, dès l'aube.
Voilà.
À l'heure où blanchit la campagne.
C'est quand même un moment. C'est un moment délicieux. C'est un moment fabuleux. Et puis, il y a eu l'aîné qui est beaucoup plus rapide et brutal. Le chien de mon mari meurt et elle rentre dans la maison. Et elle apprend la nouvelle et elle a ce mot. Ouf, ce n'est pas Mianne. Là, vous vous sentez, mais... Bon, j'en ai comme ça une kyrielle. Et puis, la troisième partie, j'ai eu la chance d'avoir un père qui parlait très peu, mais qui parlait d'or. Et qui, à plusieurs moments de ma vie, entre 13 et 16 ans, il a continué après, mais m'a donné les principes fondamentaux, les conseils fondamentaux. Et c'était les suivants, il y en a trois catégories. Ne sois pas une proie sexuelle, ne sois pas une proie politique et ne sois pas une proie spirituelle. Et si vous voulez, quand vous êtes armé par ces trois conseils, vous pouvez passer toutes les bêtises de la Terre et de notre époque contemporaine si merveilleuse.
Et de toutes les époques.
Vous êtes blindé parce que vous voyez très très vite vous voyez très très vite les problèmes. Et alors c'est incroyable, parce que ne soyez pas des pros asexuels, c'est quand même un peu d'actualité aujourd'hui, n'est-ce pas? Et je ne parle pas même pas du danger que courent les filles dans la rue. Je parle du danger d'une fille qui ne comprend pas que, comme dans l'opéra de Faust, de Marguerite, le diable dit à Marguerite, que fais-tu donc, la belle, que fais-tu donc devant la maison de celui qui t'adore? Tu peux rentrer fille, mais tu ne peux pas en sortir fille. C'est quand même facile à comprendre. Donc, toutes les femmes qui se jettent à la tête de tous les hommes.
Patrick Bruel et autres.
Et les autres. Elles sont responsables. On ne va pas dans la chambre d'un homme, c'est tout. Point barre. Il faut le savoir. C'est quand même. Mais ça, je pense que c'est le rôle des grands-mères de le dire. Il faut les prévenir. Il faut leur dire que tout ça est très compliqué et très. Mais il y a des règles. Il y a des règles. D'ailleurs, on le savait très bien puisque jadis les jeunes femmes avaient un chaperon. Alors, pas dans toutes les sociétés, évidemment. Mais à la campagne, les filles, elles savaient très bien ce qui se passait. Hein, la vie naturelle, le taureau qui monte la vache, la jument qui est montée par les talons, tout ça, elles le connaissaient. Donc, elles savent. Mais il me semble qu'il y a quand même beaucoup de conseils à donner. Et puis, lutter contre cet effroyable refus de la transmission actuelle qui me paraît... tellement prégnant. J'ai lu, pour préparer cette émission, je l'ai lu après mon livre, le livre de François-Xavier Bellamy qui s'appelle « Les déshérités ». Et alors, c'est brillantissime. Il déclare « Je ne crains pas le choc des cultures, je crains le choc des incultures ». Et pourquoi règne cette inculture? Eh bien, ici, il fait le portrait, c'est un agrégé de philo, hein, c'est pas n'importe qui. Il est clair comme de l'eau de roche. Ici, trois grands responsables. Descartes qui dit que on doit mettre en doute tout ce qu'on n'a pas expérimenté soi-même. Et c'est quand même tout à fait étonnant. Le deuxième, c'est Rousseau, vous le savez. Plus l'homme à perfectionner la culture, plus il s'est perdu en s'éloignant de la nature. Vous imaginez? Pour Rousseau, déjà, le mythe de l'égalité. Il faut qu'on soit tous, en quelque sorte, des petits animaux pour que chacun garde sa nature profonde, son indépendance, son individualité. Et puis, le dernier bonhomme, eh bien, c'est Bourdieu, qui fiche en l'air, excusez du peu, tout l'enseignement en France. Nous ne devons pas... Le Bourdieu veut que tout le monde soit à égalité et qu'il ne veut pas qu'il y ait de gens qui se distinguent. Or, la culture, c'est ce qui distingue chacun. Que ce soit une culture de la campagne, une culture de la mer, une culture... Et c'est une idée complètement fausse.
Et vous avez encore le dernier bouquin de Jean... de Laurent Alexandre, qui veut la destruction totale de l'éducation.
Mais bien sûr.
En disant, tout est sur ChatGPT, donc...
C'est ça, oui. Non.
Je suppose qu'il n'a pas d'enfant.
Si, il a des enfants, ah bon. Et il passe son temps à le dire, d'ailleurs.
Ah bon, oui, parce qu'on reconnaît souvent...
Mais c'est quand même gravissime. Parce que d'ailleurs on le voit bien, il ne faut plus apprendre ni le grec, ni le latin, ni la peinture, ni la musique, parce que au lieu de dire il faut multiplier les occasions de mise en contact des enfants avec la peinture, la musique, non, il ne faut surtout pas les traumatiser avec ça, et pour ne pas faire se reproduire une élite. C'est hallucinant. Moi, j'ai reçu ici à Radio Courtoisie Pierre-Jacques Elias, qui était quand même ce paysan breton fantastiquement intelligent qui a récupéré toutes les légendes bretonnes, tout le fond culturel breton.
Le cheval d'orgueil.
Le cheval d'orgueil, qui était un être... si on lui avait... Enfin, je veux dire, il faisait partie de cette élite. La véritable instruction fait de chacun du petit ouvrier au fond de l'usine jusqu'au fond de la campagne, jusqu'au gars des villes, il en fait de l'élite. C'est quand même incroyable ce refus de faire progresser chacun. Moyennant quoi, on leur donne pardonnez-moi l'expression, mais à bouffer n'importe quoi. Je me rapproche de l'émission d'Aude. On leur dit que n'importe quel coup de crayon, c'est de l'art. N'importe quel phallus sur un mur, c'est de l'art. Alors, on l'appelle même street art. En anglais, c'est beaucoup mieux. Il y a des taggers qui sont absolument extraordinaires, j'en connais, notamment à Montmartre, qui font des trucs. Mais enfin, c'est quand même pas le gros de la troupe. La musique, on vous fait prendre des basses, des accumulations de basses qui sont faites uniquement pour provoquer des transes pour de la musique. Ça n'en a jamais été. C'est un procédé pour provoquer des transes. Vous vous souvenez de ce professeur, le docteur Nguyen, et ce Vietnamien qui, à sa retraite, entraînait les enfants au patinage artistique. Et il disait qu'on ne pouvait plus rien leur apprendre comme danse sur le patin, parce qu'ils avaient dans la tête les rythmes contemporains. Ça, je le vois, mais extraordinairement. Vous le voyez bien, la moitié des chansons n'ont pas de mélodie, c'est-à-dire de thème musical. Le thème musical est rayé du paysage. Voilà. Et je pense que moi, faut dire que je suis aussi un ancien prof. Donc, les profs, jusqu'au moment où on les met dans la boîte au cimetière, continuent à vouloir enseigner. C'est plus fort qu'eux, il faut qu'ils enseignent. Et moi, depuis que les petites filles sont nées, je leur mets les primitifs italiens devant les yeux, je leur mets de la musique, de l'opéra à fond, du Schubert, du Bach, moyennant quoi, malheureusement, quoi, ils seront quand même un petit peu cultivés. Elles seront un peu cultivées et elles savent très bien voir ce qui est beau et ce qui ne l'est pas, déjà. Vous voyez,
parce que c'est anthropologique.
Voilà.
Dans un sens.
Voilà.
C'est-à-dire qu'on préfère ce qui est harmonieux à ce qui est désharmonieux.
Oui, mais je vous promets qu'on est en train d'apprendre aux enfants que ce qui est disharmonieux, c'est très bien.
Oui, ça, c'est l'enseignement de l'art contemporain.
Voilà. Et de la musique contemporaine et tout ce qu'il y a. Et puis alors, cette idée, si vous voulez, du refus de la transmission, c'est quand même effrayant. Enfin, je veux dire, nous sommes des... J'ai une très belle préface de Guillaume de Thiolois. Nous sommes des nains perchés sur des épaules de géants. Sans nos ancêtres, nous ne sommes quand même que pas grand-chose. C'est évident. Et vouloir rayer tout ça, c'est d'une stupidité phénoménale.
Je pense que ce sont des stratégies.
Oui, ce sont des stratégies de crétinisation généralisée.
Bon, et puis ça fait partie des idéologies dominantes que nous avons connues déjà depuis, je dirais, la deuxième moitié du XXe siècle.
Oui, absolument, absolument.
On a quand même connu plusieurs totalitarismes, certains affirmés, d'autres cachés, etc. Et en fait, aujourd'hui, c'est pour ça que c'est très important d'en revenir à une réflexion sur l'idéologie que cache... Non, on peut dire que l'IA a été appropriée par certaines idéologies. Oui. Là, il faut bien montrer que l'IA, c'est une machine et qu'il y a des idéologies qui s'en sont appropriées. Mais il faut y voir clair, parce que il y a une métamorphose permanente des idéologies, une métamorphose permanente des stratégies et il faut les suivre comme ça. Ça va très très vite maintenant. Il faut être tout de suite, il faut se mettre à lire tout ce qui peut nous apprendre.
Mais avant l'IA, il y a le smartphone. Et le smartphone a provoqué un raz-de-marée de crétinisation. Les enfants n'ont plus recours aux livres. Et les adultes aussi, n'ont plus recours aux livres, ils ont recours au petit écran. Et qu'est-ce qu'il y a dans le petit écran? C'est rien.
Vous avez bien un iPhone.
Rien. Pardon?
Vous avez bien un iPhone.
J'ai un iPhone et je suis moi-même une victime.
Voilà.
Je suis une parfaite victime. Mais moi, si vous voulez, ça fait 50 ans que je lis, donc je peux me reposer. Le problème, c'est que ces petites filles, qu'elle ne lise pas très bien. Le problème, c'est que c'est un vecteur d'images nocives. C'est un vecteur qui leur dit « Désobéissez à vos parents, vous avez votre propre goût, vous pouvez vous habiller à poil, c'est très bien. Le goût des gens d'avant, c'est idiot. » Le problème, c'est que c'est un vecteur de révolution. C'est ça, le drame.
Mais je voudrais quand même revenir à votre livre, Anne, parce que là, vous nous dites vos convictions comme d'habitude, mais votre livre, ce n'est pas ça du tout. Je vous rassure, chers auditeurs, lisez-le, parce que je crois qu'il faut qu'on écrive toute une lettre à nos petites filles. Moi, je sais que dans mes archives, j'ai le testament spirituel de ma grand-mère, de mon grand-père, de mon arrière-grand-père.
Fantastique.
Et donc, j'ai une collection de testaments spirituels, d'une certaine façon. Oui. Il y a quelque chose du testament spirituel. Pourquoi ? Parce que le testament spirituel, on l'écrit longtemps avant sa mort.
Oui.
Et on dit vraiment la pépite qu'on voudrait transmettre à ses enfants. Ce que je voudrais que pour aucun, à aucun prix, vous n'ayez pas.
Oui.
Donc, ma chère, vous faites votre testament spirituel. Et qu'est-ce que vous racontez dans ces quelques pages ? Eh bien, vous racontez ce souvenir délicieux de ce repas pris tel jour, tel printemps, au bord de la mer, avec la grand-mère machin qui disait ci, qui disait ça. Bref, et tous ces instants extraordinaires passés avec eux, parce que c'est leur souvenir d'enfance, et les souvenirs d'enfance, c'est fait pour briller toute la vie.
Et vous, non seulement briller, mais Dostoïevski dit très joliment... Les bons souvenirs d'enfance vous aident à passer les moments dramatiques de votre vie.
Voilà.
C'est très joli, ça.
C'est les souvenirs qui nous illuminent. Qui nous illuminent.
Oui.
Et donc, vous avez cette habileté de raconter le souvenir commun, ce moment merveilleux que vous avez passé, et qui est écrit noir sur blanc. Et elles vont se souvenir de ce moment en vous lisant.
Oui, oui.
Donc, si vous voulez, il y a une sorte d'augmentation de la mémoire ou de, comment dire, sanctuarisation de la mémoire que vous faites. Et c'est le fond même de votre livre, d'un bout à l'autre.
Oui.
Et donc, il y a effectivement toute la thématique que vous avez évoquée au début, de se dire, de quoi vais-je parler ? Ben, je vais parler de mon grand-père, de mon père, de ma mère, de mes grands-parents, de mes cousins, de mes cousines, de mes amis, etc. Et je vais parler des lieux.
Oui.
Donc, si vous voulez, il y a cette association avec le lieu.
Oui, absolument.
Qui est très important. Donc, tout d'un coup, l'enfant n'est pas seulement marseillais, il est aussi breton, du côté de Paimpol, et puis, normand, mais aussi de la banlieue parisienne.
Absolument.
Et même de Paris. C'est-à-dire que, bon, ça, c'est le pavillon de banlieue de famille.
Bien sûr.
Dans cette merveilleuse banlieue. Avec ses petites maisons, ses petits jardins, et tout ça est plein de saveurs. Donc, en fait, vous avez fait un livre de saveurs et d'images.
Non, vous avez raison. Mais le but, en effet, que je poursuis, c'est d'inciter toutes les grand-mères à faire ce que j'ai fait. Et l'été arrive. Et je pense que les femmes ou les hommes doivent on doit demander à nos grands-parents, faites ce travail. C'est très facile maintenant. Soit vous avez des dons pour écrire, vous jetez vos idées sur le papier.
Vous demandez à l'IA de...
Non. Soit vous aidez, soit vous faites aider. Je donne dans mon livre des adresses et allez sur mon blog annebrassier.fr et je vous donnerai toutes les...
Je suis un lecteur...
C'est gentil, Pierre. Je donne toutes les adresses. Il y a des jeunes femmes qui rédigent pour vous. Absolument. Donc, vous leur envoyez votre documentation c'est elles qui vont...
Vous voulez dire des êtres humains.
Des êtres humains. Vous rendez compte ?
Pas des intelligences humaines.
Et des gens qui sont des filles qui sont très fines et qui comprennent très bien ce que vous avez voulu dire et qui... Donc ça, c'est pareil, à mon avis, très, très important. Parce qu'en plus de ça, quand même, ce sont des témoins d'un monde qui... Là, je suis un petit peu sinistre, mais qui disparaît complètement.
Non, mais il ne faut pas croire.
Si je puis me permettre, non, mais moi, je suis catastrophé.
Vous avez deux catastrophes.
Mais tout est fou. Tout est foutu, tout est foutu. L'armée perse envahit la Grèce.
Mes petites filles sont beaucoup plus sages que moi.
L'armée perse a envahi la Grèce. L'armée perse est beaucoup plus importante que l'armée grecque.
C'est le dernier chapitre.
Il ne fallait pas le dire. Les Athéniens envoient à la Pythie de Delphes une délégation pour dire qu'est-ce qui va se passer.
Oui.
La Pythie, quand elle le voit, qui était une folle dingue, il faut bien le dire, se roule par terre en disant mais c'est fini, tout est foutu, fuyez loin de vos cités, donc abandonnez. Voilà, tout est terminé. Alors ils s'en vont catastrophés puisqu'ils croient. Les Grecs croient au destin.
Oui, mais ils croient à la lettre,
c'est ça. Voilà, à la lettre. Mais il y a un des Grecs qui leur dit, écoutez, on va, faut pas désespérer, on va retourner voir cette dame avec des cadeaux, on va lui parler gentiment.
On va l'acheter.
Et on va l'acheter. C'est la représentante d'Apollon sur Terre, donc c'est pas mal. Et on va négocier, ça c'est très grec. On est fataliste, mais on croit qu'on peut négocier. Alors,
c'est un peu du Trump.
Alors, la Pythie s'était calmée. Elle avait fumé un joint parce que vous savez, elle était vraiment, elle fumait, elle avait des fumées partout, etc. Et elle leur dit bon, éventuellement, peut-être, si ça va bien, vous serez sauvés par vos murailles de bois. Alors les Athéniens reviennent encore plus catastrophés. Elles se moquaient de nous en fait.
Ça brûle une muraille de bois.
Grèce, ben voilà. Donc il y a certains qui croient que c'est l'ancienne muraille de bois qui est sur l'Acropole à l'époque néolithique. Alors ils construisent une muraille de bois. L'armée perse arrive, détruit la muraille de bois, brûle tout, viole toutes les femmes, tue tous les hommes, réduit en esclavage tous les enfants. Alors, tout est foutu, terminé, il n'y a plus rien. Il restait quelque chose. Il restait la flotte grecque.
Oui.
Commandée par Athènes. L'armée de terre était commandée par Sparte. L'armée de terre, la marine, était, si on peut dire, était commandée par Athènes. Mais elle était plus petite que l'armée perse. Simplement, sur l'armée perse, c'était des esclaves qui ramaient, alors que du côté grec, c'était des citoyens.
Des hommes libres.
Voilà. Et à part ça, il y avait un bon amiral qui a dit qu'il fallait entrer, alors qui est parvenu à entraîner la flotte perse dans un étroit goulet où le fait d'être plus nombreux n'était pas un avantage mais un inconvénient.
Bien sûr.
Et les bateaux perses ont commencé à s'entrechoquer. Et ils étaient près d'une petite, un petit pic, un petit cap qui s'appelait Salamine.
Salamine, c'est ça, la bataille de Salamine.
Grecs, les Grecs ont été sauvés par leur muraille de bois.
Eh oui,
c'est
le bateau.
La vieille
le bateau,
folle.
Ouais.
En fait, elle voulait dire...
C'est-à-dire que les prophéties, il faut savoir les lire.
Ah, voilà.
C'est très compliqué.
Donc voilà, on en
et
est
puis
là.
Il y a toute la sémantique, quand même. C'est que les murs de bois, c'est les bateaux.
Oui, c'est ça, oui.
Je crois qu'on est bientôt à notre chronique de Christine Surgens, qui nous renseigne sur les... sur ce qui s'est passé dans le monde culturel en France. Dieu sait s'il s'en passe des choses ces derniers 15 jours, ce dernier mois.
Oui, je voulais avertir les auditeurs. Enfin, c'est parti d'un des chapitres de mon dernier livre qui s'appelle « Les bienfaits du beau ». Il y a tout un chapitre qui est consacré à un éloge de l'attention. Parce que je crois que l'attention est quelque chose d'absolument crucial, capital dans l'art et pour la beauté. C'est-à-dire qu'avant de solliciter notre mémoire, notre imagination, notre logique, avant même de déclencher des émotions, la première faculté en fait que l'art et le beau sollicitent en nous, c'est l'attention. Et la beauté va vraiment développer notre capacité à observer. Et d'ailleurs, Aude, vous savez que beaucoup de chefs-d'œuvre en peinture, par exemple, en font leur sujet exclusif. Par exemple, la dentelière de Vermeer au Louvre, c'est un tableau qui a pour thème l'attention. L'enfant au toton de Chardin, vous savez, le gamin qui est absorbé par sa toupie, c'est pareil. Les nombreux joueurs de cartes, vous voyez, qui sont complètement obnubilés par le jeu qu'il y a sur la table et qui se font dévaliser par les belles bohémiennes parce qu'ils regardent ailleurs. Donc, ce sur quoi je voudrais insister aujourd'hui, c'est que jusqu'ici, le grand art séculaire autorisait de déployer son attention lorsqu'on est visiteur de musée, spectateur, autorisait de déployer son attention dans une relative confiance. Mais récemment, une nouvelle donne a brouillé le jeu de l'esthétique, et c'est le cas de l'art post-Duchampien, dont la transgression, vous le savez, Aude, c'est vraiment son fond de commerce. Or, une des fonctions de l'art, c'est de transférer ses émotions aux autres, certes, mais sans leur nuire. Mais depuis l'art dit contemporain, que nous appelons lassé, pour bien montrer que c'est quelque chose de très spécifique, que c'est un art officiel, volontiers financiarisé, volontiers conceptualisant, donc cet art dit contemporain, c'est assez, ça n'est plus vrai. Par exemple, dans nombre d'expositions, vous avez une affichette où il est marqué « Cette installation est déconseillée aux personnes sensibles », qui est quand même un comble. Bon. Or, bravo. Ce danger de lasser s'ajoute à un autre problème qui lui aussi est relativement nouveau, qui date d'à peu près 20-25 ans, qui est celui de l'économie de l'attention. Et là, évidemment, je fais référence à tous ces flux numériques sur nos écrans, nos smartphones qui bougent sans arrêt, où vous avez des données qui s'affichent à l'écran à un instant précis, et puis l'instant suivant, ça vire dans le néant. Or, les œuvres d'art, telles que les peintures et les sculptures, elles ne bougent pas. Donc, elles calment le jeu. Elles permettent de se poser et de regarder en profondeur. Une peinture et une sculpture, s'il y a quand même quelque chose d'extraordinaire, ça ne tombe jamais en panne. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Donc, le monde moderne a un problème avec l'attention. Et d'ailleurs, j'ai observé que plus les Occidentaux délaissaient les pratiques d'attention qui normalement étaient dévolues à l'art et à la beauté, bah, plus ils remplissaient les salles de méditation orientale comme pour compenser. Mais en art, il ne s'agit pas de cultiver une pure réceptivité pour elle-même, il s'agit simplement d'ajuster notre attention à l'œuvre qu'on a sous les yeux. Vous savez que Baudelaire disait qu'il fallait regarder les œuvres en enfance, c'est-à-dire avec ce regard qui se situe avant le langage, puisque le tout petit ne parle pas. Et au fond, Bergson dit la même chose. Il dit qu'il faut trouver une certaine manière virginale de voir, d'entendre ou de penser. Et c'est là qu'il faut faire attention, parce que justement, il y a cette nouvelle donne qui ne concerne pas seulement les nouveautés technologiques qui captivent l'attention, notre attention dans les réseaux sociaux, les jeux vidéo, etc. Mais il y a ce danger qui est ce plus sournois, qui est venu de l'intérieur de l'art avec l'émergence, à partir du milieu des années 70, de cet art dit contemporain. Car depuis cet assez volontiers conceptualisant, l'évidence décrite par Schopenhauer ne va plus de soi. Vous savez que Schopenhauer disait « les arts ne parlent jamais que la langue naïve et enfantine de l'intuition et non le langage abstrait et sérieux de la réflexion ». Alors évidemment, avec une partie de l'art contemporain qui se veut conceptualisant, évidemment, là, on sent que on n'est plus du tout sur le même terrain. Et Schopenhauer ajoutait que toute œuvre d'art véritable et réussie répond à sa manière et toujours bien à cette question « qu'est-ce que la vie ?». Or, lassé, qui ne veut que l'art dit contemporain, qui ne veut que détournement, transgression, rupture d'avec les mondes et sociétés antérieures, pour lui, réussir, ça implique d'abolir, d'annuler, de rendre dérisoire l'art tel que Schopenhauer pouvait le connaître, c'est-à-dire inséparable de la beauté. Et Dieu sait si Duchamp, qui est le pape de cet art dit contemporain, a méprisé la beauté, la transformant avec ses ready-made en beauté d'indifférence, c'est-à-dire au fond en non-beauté. Donc, une œuvre d'Assé, pour qui perturber c'est créer, ne répond jamais, elle questionne à tout va, elle remet en cause, elle subvertit, elle réclame, elle revendique, elle cherche non pas des réponses, mais elle exhibe des constats aussi déceptifs et transgressifs soient-ils. Et donc la question qui tenaillait œuvre d'art et artiste depuis des siècles, qu'est-ce que la vie? Eh bien, Lassé la change en « pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ?» Et il est évident que rien, très rapidement, devient supérieur à être, parce que être, bah, l'être, il est toujours limité et imparfait. Et c'est ce qui fait la force des utopies et des idéologies par rapport au réel. Donc aujourd'hui, l'être ne mérite que consommation, destruction, ce dont s'acquitte fort bien d'ailleurs la transgression chère à l'art très contemporain, d'où cette redéfinition du mot contemporain qui avait été donné par un philosophe et qui est très juste. Le contemporain est ce qui lutte contre ce qui est. EST. Vous voyez, c'est pire que je tire sur tout ce qui bouge. Là, il vous suffit d'exister pour devenir la cible de ce contemporain-là. Et c'est celui qui s'exprime, bien sûr, dans l'art du même nom. Donc, c'est une formule qui est aux antipodes de ce que l'homme de la rue s'imagine de la contemporanéité. Cet art contemporain n'est pas l'art de tous nos contemporains. Ça ne désigne pas une catégorie temporelle, mais l'arrêt mortifère du cours des choses, une forme de nihilisme, et la beauté est un ennemi à abattre. Donc, nous ne pouvons plus, dans ces conditions, prendre refuge comme Baudelaire. Vous savez, Baudelaire prenait refuge dans une impeccable naïveté, disait-il. Ça, on peut plus le faire, parce que sinon, on prend le risque d'être abusé par des tableaux qui ont l'air de tableaux, mais qui ne sont là que pour déconstruire la peinture, qui est un euphémisme, déconstruction qui cache un travail de sape, qui ne réclame l'attention du spectateur que pour mieux duper ou subvertir, bref, contraindre en douceur. Et je voudrais, Aude, vous donner un exemple que j'avais cité dans un précédent livre qui s'appelait « Les mirages de l'art contemporain ». Et je me souviens d'une visite au musée du Jeu de Paume qui exposait au sol des silhouettes humaines avec des empreintes de pas bleues et rouges. Vous savez, ces silhouettes qui ressemblent un petit peu à ce que font les inspecteurs de police autour de du corps des crimes. De la victime, n'est-ce pas? Eh bien, vous aviez comme ça des silhouettes humaines et puis des empreintes de pas bleues et rouges. Et là, il y avait un conférencier qui s'adressait à un groupe d'adultes et il leur dit... Comment recevez-vous cette œuvre? Alors évidemment, les visiteurs, ils voient la silhouette avec les pas bleus et rouges. Et le conférencier dit « Quand je montre cette œuvre aux enfants, ils se mettent à danser spontanément sur les silhouettes en empruntant les pas de couleur. » Sous-entendu, vous les adultes, vous êtes coincés, vous n'avez rien compris. Bon. Mais le conférencier ajoutait perfidement « Quand je dis aux enfants que la position des pas sur les silhouettes correspond au catalogue de blessures infligées par les Grecs aux guerriers troyens d'après les descriptions d'Homère, les enfants se figent. » Fin de citation. Les gamins, ils croyaient s'être engagés dans une innocente gigue et puis découvrent en fait que c'est une danse de mort. Donc, vous voyez, l'œuvre fonctionne comme un piège. Et même tout ce monde, sous ce petit milieu de l'art dit contemporain, s'enorgueillit de piéger même les enfants. Donc, on comprend pourquoi l'art contemporain a d'ailleurs souvent été comparé à un art furtif, comme les avions qui frappent sans prévenir. Et d'ailleurs, à l'époque, il y avait quelqu'un qui avait proposé une nouvelle définition du mot néophyte pour l'art contemporain. Et il disait « néophyte, c'est une nouvelle espèce de pigeon ». Donc, autant on peut avoir confiance, enfin une certaine confiance avec les formes d'art à l'ancienne, si vous voulez, ou traditionnelles, autant avec l'art dit contemporain, eh bien disons que méfiance, le sens critique est de rigueur et assez rapidement. Et alors, ce qui est intéressant, Aude, c'est que finalement, l'art est un laboratoire, parce que ce qui se produit d'abord dans les galeries, dans les musées, se produit ensuite dans le reste de la société. Donc, on a vu la méfiance, la sensation d'être en terrain hostile, d'être manipulé, enfin, une sorte de malaise, d'inconfort. On a vu ça monter d'abord dans l'art très contemporain, et puis maintenant, c'est dans les rues. On sait maintenant qu'il faut se méfier en permanence et partout, ce qui n'était pas le cas il y a encore quelques décennies. Alors, dans le dernier livre que j'ai fait paraître chez Bolène, il y a encore bien d'autres bienfaits du beau. Il y a la contemplation en particulier, qui évidemment permet à la beauté d'ouvrir des voies spirituelles. Ces voies spirituelles, il y a évidemment les voies philosophiques qu'avait dégagé Platon, il y a toute la voie judéo-chrétienne du christianisme, qui ont en art donné des beautés transcendantes. Mais il y a aussi des voies non religieuses ou areligieuses qui ont donné des beautés immanente, la beauté est pleine de ressources. Et donc, si vous cherchez de la lecture pour les vacances, eh bien, les bienfaits du beau chez Bolène sont à votre disposition.
Merci Christine. Et cela nous prépare pour une rentrée prochaine où un quatrième livre devrait paraître. Comment s'appelle-t-il?
Alors, le prochain livre s'appellera « Beauté singulière ». Alors là, ce sera une ambiance très différente des bienfaits du beau, puisque ce beauté singulière, en fait, c'est toutes les beautés qui fâchent, toutes les beautés qui font polémique. Alors, ça va de la beauté des nus à la beauté du mal, à la beauté de la croix, la beauté du diable, enfin, toutes les beautés qui fâchent.
On a hâte, mais on va commencer par celui qui est
mais
déjà...
Mais il faudra voir, justement, ce qui est intéressant, c'est de voir comment la beauté réussit à se sortir de situations extrêmement difficiles. À la différence de l'art contemporain qui fait beaucoup plus de dégâts, à mon sens. Oui. Mais c'est la beauté qui est attaquée.
Bonjour Christine, c'est Anne. J'étais à la gare de Toulon, je tourne la tête et je tombe sur la langouste de Kuntz, le homard de Kuntz, la tête en bas, une pince accrochée à une poubelle renversée et une autre accrochée à au dos d'une chaise. Et là, je suis rassurée, ce homard est à la Fondation Carmignac à Porquerolles. Donc, ceux qui se promèneraient par là, ce n'est pas tout à fait la peine d'aller à la Fondation Carmignac. Voilà, Kuntz existe toujours et il sévit toujours.
Plus que jamais.
Plus que jamais,
oui. C'est une valeur encore sûre. Et en fait, c'est le homard qui était à Versailles.
Absolument.
Donc, il vous poursuit, ma chère.
C'est le homard contre lequel nous avons tous lutté. Enfin, on a gagné. On a gagné parce qu'il n'y a plus de statut d'art contemporain dans le château de Versailles.
Ce qui pour l'instant, Anne. Soyons modestes, soyons modestes.
C'est pas grave, je serai morte à la prochaine exposition.
Non. Vous serez à la rentrée de la grille, comme d'habitude.
En tout cas, merci. Merci, Christine.
Merci, Christine. Et Alors, donc, peut-être que c'est le moment aussi de dire quels sont les éditeurs de Pierre de Lacoste. Peut-on vivre sans IA, sous-titre, elle sait tout de toi, tu ne connais rien sur elle, et c'est aux éditions Temporis. Voilà, je pense qu'il faut commencer tous à avoir une bibliothèque qui nous promène dans cette IA, qui change tout le temps. Donc, je veux dire, il va falloir faire chaque année un chapitre supplémentaire.
Exactement, c'est le but de mon blog.
Voilà. Oui.
Mon blog, c'est chaque page du blog est une page supplémentaire du livre, en quelque sorte.
Alors aussi, il y a un marché, c'est aussi important, c'est-à-dire que vous dites, moi, quand je constate... Alors, parce que c'est quand même grâce à ChatGPT qu'il a fait son livre. Et pas seulement ChatGPT, mais un certain nombre d'autres, parce que, d'ailleurs, vous les citez abondamment, vous leur mettez des étoiles ou pas des étoiles.
Non, je ne fais pas des étoiles, mais effectivement, il y a un nombre incalculable d'IA, différentes les unes des autres, et notamment concurrentes entre elles aux États-Unis. Il y a l'ignoble Grok, puisqu'en fait, c'est Elon Musk qui l'a créé, et c'est de l'humour sud-africain des années 50.
Ben, vous voyez, il faut tout pour faire un monde, c'est très important.
L'IA n'est pas neutre, elle est toujours manipulée d'une manière ou d'une autre, parce qu'ils se sont aperçus que quand on laissait des IA libres, elles tombaient vers le bas, c'est-à-dire elles tombaient vers le racisme, vers la misogynie, vers etc.
La nature, quoi.
Vers la nature, si on veut. Si on veut. Alors donc, on a corrigé humainement, et c'est en particulier vrai, l'expérience que j'ai eue avec une IA chinoise, je ne sais plus laquelle, je crois que c'est la... Enfin bon, peu importe. Et j'ai posé des questions qui fâchent, du genre, qu'est-ce qui s'est passé à Tiananmen, etc.
Ne comptez pas sur nous pour vous raconter.
Et bien, l'IA, non, mais l'IA, il a fait un clash. Elle a... Un bug, il y a eu un bug, ma question a fait bugger l'IA chinoise, qui était DeepSeek. Voilà, DeepSeek, je crois.
Ah oui, elle n'a pas voulu répondre.
Et après quelques 0,01, machin, etc., il y a eu une voix, enfin une écriture visiblement humaine, qui disait, ce que vous posez comme question est trop politique, mais venez donc visiter la Chine, vous verrez le mur de...
La Grande Muraille.
La Grande Muraille, la place Tiananmen, le palais d'été, machin, etc. La cité interdite.
Et donc, c'est ça.
Donc,
circuler, il n'y a rien à voir. Oui.
Ben, j'ai reposé la question. Qu'est-ce qui s'est passé à Tiananmen quand il y a eu le massacre atroce? Bon. Donc, vous voyez, les IA sont corrigées par l'être humain. Pour Grok est une des plus ignobles qui soit. Grok est Grok est à la fois donc l'IA qu'on trouve sur
X, c'est-à-dire l'ex-Twitter, mais c'est aussi une IA qui a créé un concurrent à Wikipédia.
Mais c'est une excellente idée, parce que Wikipédia n'a pas de concurrent. Donc, il faut de la concurrence dans tous les domaines. Je crois que le seul moyen dans le monde humain, c'est qu'il y ait de la concurrence. Et quand Elon Musk a créé un concurrent à Wikipédia, j'ai trouvé ça bien.
Alors, c'est un concurrent. Je vais quand même aller jusqu'au bout. Peut-être, c'est une bonne chose. Parce moi, je participe à Wikipédia. Oui. Je suis un auteur, enfin, je corrige, etc.
Oui, parce qu'il y a plein de mensonges sur Wikipédia.
Oui, mais...
Effrayant.
La guerre sur Wikipédia, c'est normal.
Il y en a partout, c'est la guerre, exactement. Voilà. Mais si je puis me permettre, Grokipédia, j'ai été sur Grokipédia. Alors, sur les questions, donc c'est uniquement l'intelligence artificielle qui répond. Sur les questions les plus simples, les plus basiques, des dates historiques, géographiques, etc. Il n'y a pas trop de problèmes. Mais quand vous commencez à rentrer sur des sujets plus précis, vous apercevez qu'il y a une idéologie, qu'elle est totalement transhumaniste, post-humaniste, et qu'elle est celle d'Elon Musk, dont il ne faut pas oublier qu'il est favorable à augmenter avec des neurones artificiels.
Alors, c'est pour ça qu'il est très important de lire votre livre, parce que vous saurez ce que c'est que le transhumanisme, le post-humanisme, et que ce sont des idéologies structurées avec, disons, on peut comprendre et on peut se dire, moi, j'y crois pas. Sinon, on voit des machines et on ne comprend pas l'idéologie qui est derrière. C'est, vous savez, même pour une idéologie, une technique qui est le management, tant que vous ne savez pas toutes les idéologies qui peuvent être cachées derrière, eh bien, vous devez faire attention au contenu de ce qui paraît simplement une technique.
Absolument.
Voilà. Donc, surtout, lisez pendant vos vacances, cultivez-vous, sachez quel est le bon IA, parce que vous donnez quand même quelques conseils.
Que j'appelle pas IA, je l'appelle mémoire informatique ajoutée.
Voilà, donc il faut effectivement lutter sur le plan du vocabulaire. Merci Pierre Delacoste.
Merci beaucoup.
Peut-on vivre sans IA ? Merci Anne Brassier pour le lancement de la mode de la lettre à mes petites filles et du testament spirituel que nous allons transmettre à nos enfants.
Nous attendons le vôtre. Et je préviens les auditeurs qu'il y aura un joli salon du livre le 3 octobre à Paris. Consultez mon blog annebrassier.fr et vous aurez les lieux et puis les façons de trouver ce livre. Livres en famille, c'est le plus simple. Vous téléphonez, vous n'employez pas Internet, puisqu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas commander sur Internet.
Et c'est une très bonne chose. Il faut aller chez un libraire et le demander.
Et le demander, absolument. Ah. Oui.
Merci, chers amis, et on se retrouve dans un mois.
Merci, Aude.
Vous venez d'entendre le Libre Journal d'Aude de Kéros, émission préenregistrée le 23 juin 2026, diffusée sur Radio Courtoisie, jeudi 30 juillet, de midi à 13h30, et réalisée par Claudia. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr. et accéder à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de cette émission. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse à Radio Courtoisie 61, boulevard Murat, 75 016, Paris.